bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec les
Lacadors Moudadi,
Guillermo Guiz, Albert
bonjour.
Daniel Morin,
coucou.
Tout à l'heure, Tanguy Passion,
salut.
Et nos invités José Garcia et Jean-Paul Roux,
Voilà.
On met les casques, on met pas les casques.
Voilà, avec quoi, comme vous voulez.
Maintenant je mets les casques, j'en ai marre de me faire
ils
avoir.
Ils sont pas désinfectés.
Avec Pop-Pop-Pop, avec Pop-Pop-Pop, tu t'es bien fait avoir.
C'était tellement drôle.
C'est-à-dire que la voix était trafiquée.
Oui.
Et tu as voulu avoir des rapports particuliers avec les Beatles. C'est pour résumer un peu ce qui s'est passé.
Pas du tout. C'est une petite insulte que j'ai envoyée le soir en me disant tu viens en blanc. Voilà. Je lui dis tu sais quoi. Voilà. Enfin bref, vous connaissez la suite.
José Garcia et
Jean-Paul Roux. Jean-Paul Roux.
La gêne.
Non, mais
c'est
gênant. Hein.
C'est hyper gênant.
José Garcia et c'était un EST. Et le frère de Ludivine Sagnier, qui est elle-même la sœur de Jean-Paul Roux. Donc, cette fratrie réunie dans ce film signé par David Fuenquinos et Jean-Paul Roux. Et un signé Jean-Paul Roux, c'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble avec
exactement.
David.
C'était Les Souvenirs, le précédent, qui était l'adaptation d'un de ses romans. Et là, c'est un scénario original qu'on a écrit avec David. Ouais.
C'est-à-dire que c'est vous qui êtes allé le voir en disant mon prochain film, soit qu'il écrit, ou c'est lui qui avait une idée, il vous en a parlé, comment c'est passé ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. On était en tournée province, je me souviens, sur Les Souvenirs, et on s'entend tellement bien avec David. On rit des mêmes choses, on a la même passion pour les petites choses de la vie, et on a commencé à réfléchir, à se dire tiens, ce serait bien qu'on refasse un film tous les deux.
Sur la fratrie, lui qui commet ses films avec Stéphane, c'est ça.
Mais les rapports qu'il a avec son frère, c'est pas du tout dans le film, ça est inventé.
Ouais.
Et voilà, on est parti là-dessus, on est parti quelques jours à Bruxelles, je me souviens, pour commencer à écrire.
C'est vachement bien, c'est formidable.
Merci.
On va en parler dans quelques instants avec des jeux, des interprétations, un casting.
Des acteurs,
une réalisation. Ouais, mais
il y a plus.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même. Non, mais il y a, je sais pas comment le définir sans être méchant. Il y a quand même des films qui sont faits avec, oui, de bons acteurs. Et puis après, les petits rôles, on se dit, bon, allez, on file ça à un directeur de casting et on fait pas trop gaffe à ce qui se passe. Mmh. Et là, le moindre rôle, je pense au client de l'opticien, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, celui avec le prénom.
Childéric.
Ce comédien-là, pardon, j'ai pas son nom.
Hugues Boucher.
Il est formidable.
Formidable. C'est un comédien de théâtre. C'est un vieux pote. Il était avec moi au cours Florent à l'époque. Et voilà, il fait beaucoup, beaucoup de théâtre. Je suis ravi qu'on parle de lui.
Le gars, il a 5 secondes.
Bah, il est bon.
Mais il prend tout et en un regard, il a tout le malaise.
C'est important. C'est important.
Les acteurs aiment les acteurs. Alors, quand tout d'un coup, il passe derrière la réalisation, et à chaque fois, il donne quand même quelque chose à défendre.
Ça se sent, ça, José.
C'est vital, en fait, parce que ça permet de faire vraiment une colonne vertébrale beaucoup plus aboutie que quelqu'un qui rentre juste pour ramener un café ou pour dire quelque chose, quoi. C'est très important parce que nous, c'est comme ça qu'on a débuté. Donc, c'est formidable d'avoir un petit truc à défendre et de marquer d'une certaine manière.
On va en parler de ce très bon film Lola et ses frères que l'on a aimé, mais d'abord essayons de découvrir, de voir si vous connaissez les uns et les autres, Jean-Paul Roux et José Garcia. Selon Jean-Paul, à quoi voit-on qu'un film est bon ?
Les gens s'endorment pas, le générique.
Non, on va dire que on s'en rend compte en promo.
L'accueil du public.
Non. Quand il s'amuse en promo.
Non. On voit qu'un film est bon d'après lui quand en promo, là par exemple, ce que j'ai du mal à faire.
En pitch.
Quand il parle bien.
Exactement. Quand on a du mal à le résumer, vous dites un film est bon si on peut pas le résumer en une phrase.
Oui, enfin c'est plus compliqué que ça. Mais quelques fois j'en ai un peu marre enfin comme on est dans une société où tout doit être résumé en quelques mots tout le temps, tout. Enfin ça me rend fou ça. Et aussi les films. Et maintenant il faut que ce soit un pitch. Alors c'est une femme qui rentre dans un magasin et elle est aveugle. Attends, ça a l'air bien ton film. Voilà, il faut que ce soit aussi court que ça. Et des fois c'est pas ça la vie, c'est pas ça le cinéma, c'est pas ça les littératures, c'est pas ça à la radio, c'est tout, voilà. Il faut
résumer Guerre et Paix, c'est vrai que c'est un peu complexe. Moi, on a déjà essayé plusieurs fois.
Il y a une tentative de Ramsay sur Guerre et Paix dans le film.
Oui,
tentative.
Oui, c'est vrai.
Il y a la cantatrice chauve aussi qui est pitchée en une phrase.
C'est pas mal.
C'est une chanteuse qui a pas de cheveux.
C'est ça. Une chimio qui sort de chimio.
C'est une chanteuse qui sort de chimio.
Ouais. C'est clair.
À quelle occasion José Garcia a-t-il rencontré sa douce et tendre femme Isabelle Duval?
Sur un tournage?
Non.
Quand ils sont mariés?
Légèrement avant, alors.
C'était préarrangé, en fait.
Oh, c'est ça, ouais. Bonjour, madame.
Commissariat.
Lors d'un...
Non plus.
D'une fête chez des amis.
Non, mais sur un tournage, c'est, tu peux, c'est pas ça, mais c'est une piste.
D'accord. Un casting. À l'école.
Non. C'est sur un stage, mais un stage de quoi?
Un stage de cascade.
Comédie,
un stage de théâtre. De cirque, de.
Ah,
de mime.
C'est cascade. T'acceptes cascade?
Un stage de cascade à la base. Ouais.
Moi, j'allais dire sport extrême, mais.
Non, c'est cascade et sport de combat. Ouais. Mais c'est cascade surtout. Donc, du feu, des machins, des explosifs, voilà.
Ah oui, extrême.
Bah, ça permet après de se ranger des trucs à la
quantité de chaud.
Non mais dans ce genre de situation, on se dit waouh, c'est une drôle de nana, elle est par rapport aux autres, elle est différente. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Bah non, mais c'est la situation qui est particulière.
Fou, c'est vrai.
Non, mais c'est la situation qui est particulière parce que c'est vrai qu'il y a peu de filles qui viennent dans ces stages-là. C'est plutôt plus dédié aux garçons parce que on fait des explosifs, des machins, il faut tomber, faire des chutes après des sports de combat et voilà. Et puis là, elle a voulu faire une prise de judo et tout le monde se laissait faire et pas moi.
Et depuis, vous êtes toujours en train de vous débattre.
À chaque fois, il y a une prise au sol, une saisie.
Prétentieux. Quelle est la seule personnalité que Jean-Paul Rouve sache imiter?
Oh non. Je te le ferai pas, hein.
Bah, peu importe.
C'est un président?
Non. Polnareff?
Non, justement, non.
Non, justement.
La seule qui sache imiter.
Chanteur.
C'est pas, alors, catégorie déjà. Comédien.
Ouais.
Un comédien.
Ouais.
Alain Delon.
Que nous avons reçu.
Non. Bon, Depardieu.
Depardieu.
Le Bacri.
Non.
Quelqu'un d'imitable qu'on
Bosque.
A reçu.
Ouais.
Passepartout.
Non.
Patrick Chenet.
Un humoriste et.
Alain Chabat.
Non.
Dominique Farrugia.
Philippe Torreto, humoriste.
Qui a un charisme étonnant.
Qui a un charisme étonnant.
Luchini. Fabrice Luchini.
Thomas Sisley.
Bigard.
Weber. Ok, on fait dans la vanne alors tout de suite.
Kako.
Weber.
Non.
Un humoriste.
Un humoriste qui
jouait. Plus ou moins de 50 ans.
Qui jouait.
Patrick Timsit.
Pierre Richard. Je pense, et qui jouait plutôt en binôme.
Élie Semoun.
Exactement, Régis Laspalès.
C'était au lycée.
Tu sais, Régis,
c'était l'époque du petit théâtre de Bouvard, ouais. Et donc il y avait Laspalès, il y avait tout ça, et voilà, et au lycée, j'imitais Régis Laspalès. J'ai même fait, je me souviens,
Vous faisiez ça pour que le prof se marre ou?
Ouais, pour se marrer. J'avais un devoir à faire à l'oral, enfin, un exposé à faire, je me souviens, sur la montée du nazisme, et je l'ai fait avec la voix de Régis Laspalès.
Le nazisme.
C'est beaucoup moins grave, le nazisme.
Mais d'un seul coup, ça passe mieux.
Je
te jure, je l'ai perdu, c'est marrant. Je ne le fais plus bien, je sais plus le faire. Parce qu'avec les Robins, on a essayé, c'est pas drôle, je sais plus le faire, en fait. J'allais faire deux phrases, mais je sais plus les faire.
C'est dommage que vous disiez ça maintenant, parce que.
C'était quoi? C'était
bien quand même. Hein.
C'était quoi attends, le gimmick du train là?
Ça n'existait pas encore ça, le train tout ça. C'était alors on se promène.
Bah voilà.
C'est pas top. Je sais plus le faire.
J'adorais.
Tais-toi s'il te plaît. Ça il m'a poussé. Hein.
Pourquoi à Lille, dans les restaurants ou les magasins, José est servi immédiatement? Était à l'époque servi immédiatement. Pourquoi à Lille, restaurant ou magasin, il était servi immédiatement?
Il avait un flingue.
C'était critique gastronomique à l'époque.
Non.
À Lille. Un magasin José Garcia.
Non.
Qui ressemblait au maire. On voulait que je parte vite en fait.
Ah. Alors, parce qu'on avait peur que ça dégénère.
C'était plutôt une peur, ouais.
Non, pas pour une question.
Tu leur faisais peur.
Ouais, je faisais peur au mec.
T'étais connu déjà ou pas?
Non.
Non.
Il arrivait nu.
Non.
Tu chantais.
Mais en effet, ça dépend de ça.
Il criait.
Question d'apparence.
Il faisait croire qu'il était handicapé mental.
Non. C'était une apparence. Quelle apparence avait-il au point de faire peur à Lille aux restaurateurs?
Il ressemblait à un voyou local.
Ouais, allez, on va prendre ça. Crête d'Iroquois, c'est ça?
Ouais, j'avais une énorme. Ouais, je jouais au théâtre. En fait, j'avais une énorme Iroquoise blonde pisse. Et donc, je rentrais avec une veste de combat comme ça. J'avais mon truc punk. Et les mecs se disaient, putain, il va nous balancer il va défoncer nos futurs.
Et moi, d'ailleurs, en fait,
j'étais super tranquille. J'étais juste à côté du théâtre et je venais juste manger, quoi.
Il demandait des trucs hyper raffinés.
C'était une fausse.
Non, c'est mes vrais cheveux.
En Iroquoise.
En Iroquoise.
Ah, d'accord, ok.
Ah oui, j'ai commencé dur, moi, c'est pas. Toujours avec des fringues pourries.
lumière et à la salive, la crête elle
était au sucre.
Au sucre.
Au sucre et au pento.
Les débuts de Jean-Paul Rouve, il était figurant à côté d'un grand flic de la télévision, lequel?
Boulard. Grenier.
Non.
Comment il s'appelle? Navarro.
Non, Navarro, Roger.
Ah, mais oui, mais non, Julie Lescaut, bien sûr. Mais
évidemment.
Bah oui, mais bien sûr, moi
j'étais pas figurant, monsieur.
Non, il jouait.
Tu as dit un grand flic, hein.
Il était tout le temps dedans.
Tu aurais pu dire une grande flic.
Au commissariat, il était.
Sexisme.
C'est vrai, tu avais un rôle? Régulier, je veux dire, non,
toi, tu t'as vraiment bossé. Déjà, tu sais pas mon nom. Tu sais rien sur ma carrière. Ah, moi, je dis bravo, hein.
Comment il s'appelle?
Après tant d'années, moi, je le prends très très mal. L'éveil, je m'appelais l'éveil. J'avais un petit rôle dans Julie Lescaut et j'ai un personnage récurrent. Ouais. J'ai fait plein d'épisodes. C'est mes débuts. Mais je travaillais en même temps.
Vous aussi, c'est à côté de quoi? De Maigret que vous aviez commencé, José?
De Maigret, non, j'ai maigri. Non. Maigret, non.
Vous avez pas fait un commissaire, un guest dans un commissaire quelconque?
Ah oui, non, avec Francis Huster, on avait fait un commissaire, je sais plus.
Ça me rassure, il a aussi bossé bien sur toi aussi. sur...
C'est vrai. Non, mais vous avez fait Adamsberg.
Ah, Adamsberg, oui, ça a été plus tard, oui.
D'accord. Et enfin, sur José Garcia, dites-moi, s'il n'avait pas été acteur, il aurait pu tout faire, mais surtout, il avait envie de faire quoi?
Ah, c'est ça.
Mécanicien? C'est lié avec les bagnoles?
Non, mais c'est manuel.
Coiffeur?
Ébéniste?
Oui, joli.
Oui.
Ébéniste. Ah, je savais pas, c'est beau ça. Ouais. Quel beau métier, ébéniste.
C'est super, travailler le bois.
Travailler le bois, ouais. Je sais pas si je suis doué, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, ça me plaisait bien.
Tirer, quoi. C'est l'odeur, c'est parce que y a parfum.
Non, c'est la matière, le fait de travailler comme ça, le sculptage.
Le toucher.
Alors, le film qui est impossible de résumer, quatrième long métrage, Lola et ses frères, l'histoire d'une fratrie avec l'un qui est censé être celui qui a réussi, qui est le fort de la famille, celui sur lequel tout repose et qui veut un peu décider de tout pour les autres. De l'autre côté, celui, et ça je peux le dire parce que c'est dans la bande-annonce, celui dont la profession, l'avenir s'effondre dans tous les sens du terme, parce que c'est une image forte du film. Aussi, vous travaillez dans le bâtiment, il y a un immeuble qui s'effondre et tout le film c'est un peu votre reconstruction, José Garcia avec comme ciment la sœur qui est là aussi pour vous aider, jouée par...
Oui, enfin c'est vraiment la relation, la pudeur, le fait d'être dans une fratrie, de ne pas réussir à se parler, vous savez on parle plus facilement un peu nous par exemple le seul endroit où on arrive à se parler c'est quand on est face à la tombe de nos parents parce qu'on est côte à côte et qu'on arrive à se dire plein de choses. Dès qu'on se regarde de face, on est un peu perdu, quoi.
C'est même l'endroit où vous retrouvez tous les premiers jeudis du mois pour vous engueuler.
Ouais, c'est ça. En gros, pour foutre la foire dans le cimetière, ouais. Oui, c'est ça. Parce que nous, on n'arrête pas de se chamailler. En fait, Jean-Paul, il adore que les personnages aient vraiment un métier parce que ça les incarne vraiment complètement. Ouais. Moi, je suis dans la destruction. Lui, il est ophtalmo, enfin pas ophtalmo, c'est un petit chien, et il voit rien. Donc voilà, à chaque fois, il comprend pas ce qui lui arrive. Et Ludivine, elle est avocate, donc elle est toujours en train de plaider entre nous deux, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà.
Je reprends cette image pour votre personnage en tout cas de destruction parce que c'est ce qui se passe. Votre monde s'écroule au début du film et tout le long du film. Et chaque personnage a son histoire, mais votre personnage va se reconstruire, ce qui va donner d'ailleurs un effet de réalisation assez joli pour symboliser cette reconstruction.
Oui.
À la fin. Le film commence. Le film commence par ça. On a tourné ça dans les conditions réelles parce que je voulais pas d'effets spéciaux. Donc on a trouvé des tours, en fait, vous savez, les vieilles tours HLM qu'on détruit. Et on a trouvé une entreprise qui faisait ça 6 mois avant le début du tournage. Et on a tourné en direct, ce qui évidemment, vous imaginez bien.
Un plan séquence. Attention, parce que ça, c'est un vrai défi de réalisateur. Ouais. Non, mais c'est un truc de dingue.
On suit José, donc, derrière, à l'épaule. On suit José. Donc nous, on avait le compte à rebours des gens qui détruisent les immeubles, évidemment. Et voilà, et on savait, on avait tout répété, et José arrive, clac, il se met face aux immeubles, les tours tombent, la caméra recule, José se retourne, là il doit allumer une cigarette, donc vous imaginez le flip, si le briquet marche pas, mais c'est des conneries, hein.
Ouais, répondre, si le briquet marche pas, ça...
Répondre au téléphone...
Et faire sa réplique...
Et faire sa réplique et sortir du champ.
Ouais. Et tout voilà. Ça est le plan séquence.
Et
si
démon,
y a un bug,
c'est
mort
foutu,
parce que
c'est foutu.
Les immeubles se sont écroulés.
C'est dément. Donc vous faites du cinéma en direct, ce qui n'existe pas, hein. Principe du cinéma, c'est pas le direct. Et là, on a fait une scène en direct. C'est des démons à faire.
Mais moi, je crois que c'est ce que je préfère, en fait.
Ce genre de réglage à la
ce genre de réglage où il n'y a pas de chance, il n'y a aucune possibilité, c'est alors
on
là.
Peut pas
moi,
la
je
faire.
Suis à, je suis à un mètre du sol, moi. Je suis avec une banane comme ça, je me dis, ah, ça va être énorme.
Ouais. Il n'y avait vraiment pas de plan B? Parce que c'est quand même le début du film.
Il y a pas une deuxième tour qu'elle est.
Il y a pas... Et en plus, c'est très. Il y en a de moins en moins.
Si je peux me permettre, le seul plan B
qu'il est,
c'est de ne pas faire son plan séquence.
Oui, de couper.
Et après, de faire un champ contre champ pour rattraper la
boulette. Exactement.
Si
c'est de faire du montage. Ouais, ça, c'est un plan B en effet. J'avais une caméra sur le toit qui filmait que les tours qui s'effondraient. Et comme ça, je pouvais passer de l'un à l'autre éventuellement. Mais le plan séquence, c'est la vie. On sent que c'est pas coupé.
Et alors, pardon, est-ce que c'est voulu ou pas de faire s'effondrer des tours jumelles? Parce qu'il pourrait y en avoir qu'une. Là, elles étaient deux et on a cette image quand même qui nous frappe. Des
oui,
tours
oui. Alors là, c'est une chance. Non, c'est pas voulu parce que il y a plus beaucoup de tours qui sont détruites en France. Tout a été un peu détruit. Maintenant, on a détruit un peu des vieilles usines. Il y en a de moins en moins. Donc on a galéré et un jour ils nous ont appelé mais 6 mois avant le début du tournage pour nous dire voilà près de Lyon il y a 2 tours mais ils le disent pas longtemps à l'avance parce que c'est très contrôlé évidemment les explosifs dont Vigipirate tout est très contrôlé pour avoir les autorisations c'est un enfer et on a eu cette chance en effet d'avoir 2 tours c'était encore plus beau.
Et alors le personnage de votre sœur est extrêmement fort, touchant, émouvant parce que elle aussi, elle est un peu laissée pour compte par les frangins, c'est-à-dire qu'elle a pas de vie privée et puis dès qu'elle essaie d'avoir un début de vie privée ou un début d'histoire d'amour, là les frères deviennent des grands frères et commencent à pas du tout aimer, pas du tout aimer ce genre de situation.
Mais en fait, elle se consacre surtout à nous quoi, elle est tout le temps en train de nous rabibocher,
c'est dit dans la bande annonce, c'est la maman un peu.
Bah c'est ça, oui, c'est ça et puis en fait quand elle arrive avec un mec qui est vraiment l'inverse de nous, c'est-à-dire vraiment fiable, sérieux, qui est joué par Ramzi Bedia. Oui, je dis bien Ramzi Bedia. Il est un homme fiable, sérieux, rassurant.
Rôle de composition, hein, faut le préciser.
Mais il est vachement bien, tellement bien là-dedans. Il est comme on le connaît, nous, dans la vie. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il arrive, on commence à prendre nos galons de grand frère, soi-disant. Et en fait, il a 2 épaves devant lui qui sont dans un état pathétique.
Alors justement, celles et ceux qui viennent autour de cette fratrie, il y a Pauline Clément qui est la troisième épouse de votre personnage, Jean-Paul, Clément, qui là aussi c'est une scène formidable, celle du mariage où le frère doit faire un speech et où se vautre lamentablement
pendant
le speech.
Il oublie le
prénom.
Mais ça arrive, comme certains, C'est pas à vous que je vais apprendre ça, Nadine, oublier le prénom de quelqu'un, il est à mon mariage. Et en effet, il oublie nom de ma femme, ce qui est quand même un peu gênant. Excellent, donc elle prend pas super bien. Mais Pauline Clément, c'est une actrice formidable. C'est une jeune comédienne de la Comédie française. Et je peux vous dire que quand on a fini d'écrire le scénario avec David, je me suis dit, ce rôle-là, ça va être difficile de trouver une comédienne pour l'interpréter parce qu'il est subtil, le rôle. Il faut pas qu'il soit caricatural. Le personnage est complexe. On sait pas si elle est complètement idiote.
C'est ça.
Ou si elle a un fond de vérité en elle. Si elle est un peu raciste. Elle est sur le fil tout le temps. Mais en même temps, on a de l'empathie pour elle.
Et le personnage de Ramzi Bedia, moi, j'ai adoré parce qu'il est d'une tendresse, d'une douceur. Vient contrecarrer avec le masculin, en fait, tel qu'il est représenté.
C'est un homme, un vrai. Nous, on est deux mômes. Et lui, elle rencontre quelqu'un de fiable, comme disait José, qui a les pieds sur terre.
Ouais. Ludivine Sagnier, d'abord, vous avez déjà travaillé avec elle? Vous l'avez embarqué comment dans cette aventure?
Je l'ai rencontrée.
Pourquoi elle? Il fallait qu'elle soit
Il fallait
un petit bout de chou.
Ouais, c'est ça. C'est un mélange en fait. C'est ce mélange que c'est le paradoxe de cette femme qui est la petite sœur, donc qui est un peu étouffée par ses frères et donc fragile, mais en même temps c'est leur mère. Donc il faut cette force et cette faiblesse à la fois. Et Ludivine a ça en elle, je trouve, quand on la voit. Surtout maintenant qu'elle a 38 ans, il y a quelque chose en elle de fort que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de montrer ça, oui.
Oui, à la fois femme et petite fille, quoi. C'est-à-dire que les deux sont...
C'est ça. Ça peut être antagoniste et ça se complète.
Tous, franchement, c'est un casting de dingue. Et une direction, alors José nous l'a expliqué à quel point les acteurs qui deviennent réalisateurs dirigent sûrement ou proposent des rôles différents. Et puis il y a pas deux frères, il y a pas deux sœurs qui ont la même histoire sur cette planète, mais c'est vrai que il y a une force d'amour qui fera que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'engueulade, quelle que soit la situation, on est amené à se revoir, on est amené à s'aimer et à oublier la boulette qui a eu lieu avant.
Ouais, c'est ça que j'aime bien. À un moment, elle le dit, Ludivine, elle essaye de justifier. À un moment, j'ai une attitude pas super dans le film et je réagis pas très bien. Et Ludivine essaye de justifier mon attitude et elle n'y arrive pas, évidemment. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a comme argument? Elle dit, c'est mon frère. Voilà, et ça résume tout
ouais,
ça.
Fin, c'est fin la vie. Discussion.
Ouais, c'est mon frère. Philippine
Laura Beaulieu, Franck Bruno, Jacques Boudet, Pauline Clément, Ramzy Bedia, un casting de dingue. Et le casting pourrait s'allonger avec, encore une fois, les moins de participation, les moins de présence. Il y a une petite dame qui a son appartement, qui se retrouve fissurée.
Elle est géniale,
elle joue tellement bien, elle. C'est elle qui repasse après.
Ouais, c'est elle qui une vieille dame. Donc, pareil, en casting, c'est une comédienne. Elle a 90 ans.
92 et 92. Elle fume un paquet par jour.
Elle fume un paquet par jour.
Ah ouais.
Mais elle est en pleine forme.
Allez, on y va, allez, moteur. Allez,
ouais,
on y
ouais,
va,
ouais.
On
tourne. Et elle connaît son texte et machin. Elle nous chope à l'émotion. Oh mais là c'est là. Un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle est impressionnante. Et c'est pour ça que je me suis remis à fumer.
Ouais. C'est un film. c'est vrai, à propos d'émotion, c'est un film où on rit, où on pleure, où on réfléchit. Non, mais on passe par tous les étapes.
Ouais. Si, j'espère. Enfin, on l'a écrit comme ça, en pensant à ça. C'est voulu, bien sûr. Bah, toutes les étapes de la vie. Mais moi, c'est le cinéma que j'aime aussi. Hein. Donc, moi, j'aime avoir des émotions au cinéma. J'aime rire, j'aime pleurer. J'aime qu'on me raconte aussi la vie, mais la vie en mieux. Enfin, tout ça. Et puis, sortir aussi avec de l'espoir. J'aime bien les films qui finissent bien. Ouais, parce que j'aime bien sortir du cinéma.
C'est quoi? C'est un peu à la Capra aussi. C'est,
oui, oui.
C'est
alors, bien sûr, je me permets pas de dire que voilà, je fais comme Capra. Surtout pas. Mais c'est dans mes.
On peut avoir ce genre de sentiment quand on sort de la Projo.
Exactement. De comme Capra, comme toutes les comédies italiennes ouais. qu'on adore, ou comme les films d'Yves Revers, Un éléphant, ça trompe énormément ouais. et tout ça. Ce pied. Ça, c'est tous des films en plus moi que j'ai découvert à la télé, gamin. Vous savez ce film que vous voyez à la télé le dimanche soir. Puis le film est terminé, et puis vous allez vous coucher, vous êtes bien. Vous avez passé un moment avec des gens que vous aimez bien.
Eh ben, ça marche avec Lola et ses frères, en tout cas. Félicitations. Jean-Dominique Besnéard, ça va être un succès.
Ben, mon cher Nagui, c'est avoir du succès. Casting de dingue, vous l'avez dit. Personnage attachant, sans pathos. José Garcia, salut José.
Salut.
Jean-Paul Rouve, j'ai pas oublié son prénom. Moi, je connais un peu.
Arrêtez, j'ai pas oublié le prénom, mais c'est quand même dingue.
Salut Jean-Paul.
J'ai ma phrase.
Bonjour Dominique.
Surtout, un peu de sérieux, surtout ce film entre en résonance avec les questions que chacun se pose au sein des fratries unies ou désunies, qui connaissent dissension, visiblie, zizanie. C'est dingue aujourd'hui, c'est que les mots difficiles.
Vous pouvez pas auto-tuner parce qu'on comprend rien.
Mais aussi complicité et affection. Et vous savez ce qui va entre frangin et frangine, ça joue aussi entre cousin et cousine. Par exemple, mon cousin Dominique et moi, quand on était jeunes, un Français qu'on a pu se flamailler en sortant du ciné, il chipotait toujours sa distribution. T'aimes cette actrice? Elle est nage. Et cet acteur, il est moche. Moi, je chicanais sur la mauvaise diction, l'élocution. Comment tu peux supporter cet acteur? Il jojote. Cette actrice, elle j'éseille. Résultat des courses, tous les deux, on s'occupait des stars. Mon cousin, comme casting agent, et moi, comme orthophoniste. Mais tout ça, in fine, ça ne nous empêche pas de nous aimer. Alors, je parle d'affection, mais juste avant cette émission, Nagui, j'ai pas eu l'impression que j'en ai prouvé un max pour GNB, votre relaxef qui est là-bas, les carreaux. C'est bizarre. C'est cette façon qu'il a de se protéger le visage quand vous lui adressez la parole, d'ailleurs. Alors, je vais faire Nagui, mais c'est pas une imitation. Ah oui. C'est pas les talons de mon ami Albert Algou. Au pied, face de Coulommiers. À vos ordres, mon maître. Je vois que t'as encore invité, mais... Ah, putain, comment il s'appelle déjà? Le Rouve. Et le Garcia. Ok, je vais leur ressortir ce que je leur redis à chaque fois, qui ça fait rire et émouvoir. Mais pour changer, parce qu'ils viennent souvent, t'aurais quand même pu inviter le réalisateur du film. Mais au mon maître, le réal, c'est Jean-Paul Rouve, à qui vous pourrez demander comment ça se passe quand on est tour à tour devant, derrière... ou au-dessus de la caméra. Et surtout, n'oubliez pas de dire, ça marche toujours, que c'est un film où on rit, où on pleure, un peu à la Capra. Ce qui me ferait du bien, c'est que tu te la fermes, GNB. Allez, passe-moi tes fiches et rappelle-moi juste le titre du film. Voilà.
Ah, tu rajoutes. Mais évidemment.
Voilà comment je prépare la bande originale. Je suis sur le coup, moi. Comment je prépare la bande originale, cher José, cher Jean-Paul, dans la haine et l'amateurisme. Quelle honte. Bonne émission quand même.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
J'ai eu le sentiment, Jean-Paul Rouve, que, mais ne le prenez pas mal, que vous étiez le moins bien servi dans les personnages. Vous avez super bien servi les personnages de José Garcia, de Ramzy Bedia, de tous les comédiens, et vous êtes donné un personnage qui finalement est celui qui est le plus droit.
Ouais. Bah, vous êtes presque en trop dans le film.
Non, c'est ça. Non, j'ai pas dit ça. Il a très bien servi les autres dans le spectre des émotions et par toutes les étapes par lesquelles il passe.
Il est tellement égoïste, mon personnage. Il est tellement sur lui, il pense tellement pas aux autres et tout. Je trouvais ça m'a. Enfin, au début, je devais pas le jouer. Enfin bref, mais.
Bah non, pas enfin bref.
Non, mais c'est un autre comédien. Non, je voulais pas jouer parce que pour pas être
devant et derrière.
Non, mais c'est vrai en plus. En plus, c'est vrai.
Mais on va y venir, on va y venir.
Et donc, j'y suis allé
et quoi,
finalement.
C'est un comédien qui vous a planté ou?
Ouais, parce que mon film a été décalé et je me suis retrouvé un
comment
mois
il s'appelle
avant le
début.
Non, mais on s'en fout, quoi.
On a déjà parlé de Régis Laspalès une fois.
et voilà. Non, mais moi, je l'aime. Alors c'est marrant que vous ressentiez ça, je sais pas
non,
trop quoi dire en fait.
Bien. En fait lui, il remporte beaucoup de rire dans le film parce qu'en fait comme justement il vit comme un célibataire alors qu'il est marié, il est entouré de gadgets qui ne marchent pas, donc il y a une espèce de running qui revient tout le temps et il ne voit jamais rien. C'est-à-dire que dès que sa femme lui dit un truc, le moindre truc et tout, à chaque fois il est à côté de la plaque.
Les trucs les plus évidents.
Et puis même à un moment il se retrouve avec. Bah bref, on raconte pas les trois femmes.
Vas-y.
Oui, ces trois femmes
épouses,
qui se retrouvent pour parler de lui, c'est horrible. Oui. Quoi. Non, mais là, il remporte beaucoup de choses parce qu'il y a une douceur, il y a une bienveillance et en même temps.
Non, je parlais dans le jeu.
Dans le jeu.
Je ne parle pas dans l'importance du rôle, évidemment,
oui.
Tous les rôles sont importants.
Oui.
Mais dans le jeu, je trouve que votre personnage passe par tous les états possibles et imaginables d'un être humain au cinéma. Enfin, c'est-à-dire qu'il est.
Ah, parce qu'il y en a
à la fois le coq, à la fois le violent, à la fois le fragile.
Parce que justement, c'est le mien, c'est un personnage qui est un bloc de granit et en fait qui s'effrite de l'intérieur. Donc,
qui peut paraître extrêmement costaud à l'extérieur et qui en fait s'effondre en larmes.
Et il y a aussi, vous savez, un truc, c'est l'identification que l'on peut faire avec les personnages. Ça, c'est un truc très important. Quand on est soi-même déjà, quand on est comme ça dans la vie et qu'on se tient à mort et qu'on se dit on est toujours le mec qui va bien et que voilà, on s'identifie énormément. Et c'est vrai que Jean-Paul, lui, il a la partition du mec qui vit dans le gadget, donc il est en permanence dans une espèce d'identification et qui en même temps se soucie énormément de sa sœur, de son frère,
mais et qui incarne la réussite. Et on peut se demander s'il n'a pas réussi justement en étant un peu égocentrique, en pensant qu'à lui et en ne voyant pas les autres autour de lui.
Complètement.
Si, parce que en fait il en prend soin. Mais il est dans son monde, quoi.
Il est flou, c'est un homme heureux. Il est flou, en fait. On n'arrive pas bien à dessiner les contours. Il est un peu comme ça. On sait pas trop.
Ah, parce qu'il s'engage pas.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il est comme, voilà. D'un côté, je dirais qu'il y a le type qui est l'archétype même du mec qui se croit fiable, dur, mais en même temps qui est tellement rugueux qu'on n'a pas envie de trop de s'approcher. De l'autre côté, c'est celui qui est complètement désinvolte et qui ne s'engagera jamais sur rien et qui ne comprendra jamais rien vraiment de ce qu'on lui demande au quotidien. Et nous avons encore une fois monsieur Ramzi Bedia qui arrive avec ses grandes épaules. Son regard mutin et qui fait l'épaule qui fait l'épaule sur laquelle on a envie de se poser, quoi.
Et il y a le personnage qui votre fils dans le film aussi lui a une certaine acuité, lui il voit les choses aussi très très vite, contrairement à votre personnage Jean-Paul Jouve, il détecte rapidement.
C'est ma journée.
Jean-Paul Jouve.
Je suis désolé, enfin,
vous confondez avec un grand poète.
Pierre-Jean Jouve, pardon.
C'est la journée, c'est la littérature.
Paulina, c'est Paulina
l'invité de cette émission.
Son prénom c'est Jouve.
Hier, parce que vous n'êtes pas les premiers.
Ah oui.
Hier, il y a le présentateur qui est un mec génial et tout. On était à une avant-première et il l'appelait Jean-Paul. Et en fait, il fait Jean-Paul emploi.
Moi, j'ai plus d'emploi, je m'appelais Paul. Jean-Paul.
Ah, ça passe pas du tout ce mot. Hein.
Mon nom ne passe pas.
Ne passe plus. Il y a eu un moment où ça passait. Mais là, je sais pas.
Et j'avais eu. Un jour, à un hôtel, quelqu'un qui me dit ah, je vous adore, vous êtes un super acteur. Benoît Rouvel. Ça ne veut rien dire. Rien, il n'y a rien. Tu vois rien. Ouais. Et j'ai fait, Et j'ai signé Benoît Rouvel.
Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve. C'est au cinéma aujourd'hui. Ça s'appelle Lola et ses frères. Et c'est extrêmement bon et ça fait du bien. Voici Guillermo Guise.
Ça va les amigos?
Oui.
Hola.
Ouais, je suis malade.
Qu'est-ce
Non, c'est pas. Dites, les amis, il y a pas longtemps,
j'ai t-shirt, on est en hiver.
T'es à moitié à poil.
Laissez-moi. Laissez-moi. Il y a pas longtemps, j'ai croisé Laurence Bloch, la patronne d'Inter, qui me disait Ernesto, c'est bien les chroniques sur ta bite, on adore et tout. Allez, il y a encore moins 2 cm dont t'as pas encore parlé. Ceci dit, moi j'aime bien quand tu parles de science. Et je lui dis quoi, c'est l'étude sur l'augmentation des cas de sida chez les plus de 50 ans qui vous inquiète, Laurence? On en trouvera d'autres, des auditeurs. Elle dit non. Pas du tout, c'est juste que la science, si toi t'en parles pas, qui va en parler dans cette émission de mangeurs de foin? Daniel Morin? Lol. Nagui? Allez, arrête tes conneries. Donc, je vais vous parler de science ce matin, les amis, parce qu'une fois de plus, dans la série Homo sapiens, sapiens donne envie de crever dans une annexe de la fistinière, j'ai nommé les éléphants d'Afrique qui, de plus en plus, naissent naturellement sans défense. Et je peux vous dire que des éléphants qui naissent sans défense, si j'étais Raymond DeVos, Je vous en ferai une chronique complète, je lâcherai rien. Jusqu'aux infos. Nagui Fraili, midi, Laetitia Gaillet va vous informer. Je crois que elle va rien informer du tout, celle-là. J'ai pas fini. Les éléphants d'Afrique naissent sans défense. Leur défense, c'était leur arme de défense. Même s'ils n'ont plus de défense, c'est aussi pour se défendre. Faut se rappeler que c'était ça l'humour en 78, hein. C'est vrai. Moi, je veux bien que tout était mieux sur Giscard et tout, qu'un litre d'essence a coûté le prix d'un tic-tac, mais bon, on a la mémoire courte, quoi. Bref. Les éléphants, ils sont tellement braconnés, en fait, que naître sans y voir, ça leur permet de survivre et de se reproduire, quoi. Quelque part, c'est ouf, non? Il y a des esturgeons qui ont vu ça et qui ont fait, ah, tiens, bonne idée, tiens. C'est quoi, à la place du caviar, on va taper les œufs de Pâques dans l'utérus de nos meufs, ça va faire des vacances, hein. Le problème, c'est qu'un éléphant sans défense, en fait, physiquement, c'est quand même bien chelou, quoi. On dirait genre Noël ma mère sans moustache, tu vois. Il n'y a plus la magie. Et Noël ma mère sans moustache, il ressemble à Faudel, faut le savoir. Ça change un visage, une stache, tu vois. Genre, tu mets une stache à Juliette Binoche, c'est genre Rochefort, quoi. Il faut le savoir. Et on se marre parce que c'est l'humour 2018, etc. Et qu'il nous en faut peu pour être heureux ici. En attendant, cette mutation génétique, bizarre, elle se perpétue, en fait. Parce que dans la transmission de l'ADN, les éléphants sans défense, ils ont un avantage comparatif sur les autres. C'est ce qu'on appelle le darwinisme artificiel. Enfin, je vous expliquerai bien les principes de la génétique et tout, mais on va encore dire que je vole la vedette. J'en parlais avec Axel Kahn qui me disait c'est tout le temps pareil, nous les hommes de science on sent toujours les saltimbanques de la lumière et ça se retourne contre nous, on n'en fait pas trop sur la génétique. José Garcia et Jean-Paul Rouve sont là pour leur film, laissez-les, tu vois. Ils ont un beau projet, ils sont contents de le présenter. Donc je vais pas en faire trop, mais c'est vrai que j'ai dit pas de problème, Axel. Je me suis juste demandé avec quelle mutation génétique j'aimerais que mes futurs enfants naissent si Leïla se décide enfin à accepter l'inéluctable, c'est-à-dire créer un foyer stable avec un belgo péruvien, à l'élocution pleine d'incertitudes, mais doté d'un nombre de globules rouges. Allez, somme toute, correct. Mais nos enfants, Leïla, s'ils devaient avoir ne fût-ce qu'une mutation génétique qui les protégerait du monde cruel dans lequel ils naîtraient, ce serait quoi? Et ne me dites pas un gène qui permettrait de se fournir en poppers gratuitement. C'est pas un vrai gène, Leïla. C'est pas un vrai gène. Non, notre enfant, il faudrait qu'il ait un gène qui résiste à la pollution, à la chaleur, un gène qui résiste à la folie des hommes. Et si j'étais Patrick Bruel, je vous ferai la fin de cette chronique là-dessus. Un gène qui nous protège de la folie des hommes. Bref, Leïla, je crois que c'est pas encore pour tous nos enfants. Allez, bonne émission, les amis.
Merci.
Soyez toi, Guillaume.
Bravo. Soigne-toi d'abord parce que.
Soigne-toi, Guillermo. Ouais. Soigne-toi. On va parler et écouter la musique de votre vie, la bande originale de votre vie dans les années 60. Vous êtes nés fin des années 60 tous les deux. Référence musicale et retour avec un nouvel album, je crois, qui sort là cette semaine. Paul Naref.
Je te donnerai.
C'est lui qui a choisi.
Ah, c'est toi qui l'as.
On fait pas ce genre de vanne, monsieur Garcia, dans cette émission.
Mais non, comme il a joué quand même des plus belles interprétations.
C'est pas, c'était vous oui. Je crois que c'est Benoît pour Ben.
Putain, mais je suis en train de voir. T'as vu ce qu'il a fait, Ben?
Ouais, il est ici.
Ouais, il était assis là.
Ouais. Tous les bateaux, tous les oiseaux. Oui. Ça veut dire qu'à la maison, vous écoutiez du Paul Naref, maman, papa?
Non, mais c'est. Je sais pas. Non, c'est la radio, je pense. C'est mon premier souvenir de chanson de tout petit. J'ai cette chanson dans la tête depuis que je suis petit, de Paul Naref. C'est mon premier souvenir, c'est fou, hein.
Qui revient avec un album et c'est là où on retrouve tout le sens. Je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, Michel Paul Naref.
Ouais, je l'ai. Alors,
il a un sens de l'humour et d'autodérision incroyable. Bah, il sort un album alors que tout le monde attendait, mais c'est genre ça fait 15 ans qu'il a pas fait d'album et l'album s'appelle Enfin. Van de l'Amiral en l'occurrence. Et donc vous êtes allé le voir.
Comment?
Vous êtes allé le rencontrer.
Oui. Alors il m'avait appelé un soir, je suis chez moi, j'ai un coup de fil.
Après Podium?
Après, ouais, peut-être un an après. Il était à Los Angeles et Michel Paul Naref, il venait de voir Podium pour me dire à quel point il aimait et tout. J'étais touché. Ah ouais. Et ensuite, je suis allé le voir quand il a rechanté quand il était
Bercy.
À Bercy. Et je suis allé le voir, puis après, j'ai eu la chance de le rencontrer et tout.
La classe.
Ah oui, la classe.
Quant à vous, alors, pardon.
Oui, juste une anecdote sur l'enfance, peut-être dans ces années 60. Je crois qu'il y a une anecdote un peu triste à l'école.
Ah bon?
Ouais, vous concernant, j'ai lu dans une interview que vous avez été un peu le bouc émissaire de toute une classe qui avait triché.
Oh non, c'est pas triste du tout, non.
Ah bon?
Non, mais j'avais triché aussi, moi.
Ouais, mais vous n'êtes pas fait attraper.
Et je me suis pas fait avoir et tout. Non, mais rien de. Je me souviens même plus exactement comment ça s'est passé. Ah oui, ils m'ont retiré mes pompes, ils ont jeté
pantalon.
Les pompes par la fenêtre. Ouais. Non, pas le pantalon, j'ai pas jusqu'au pantalon.
J'ai été frappé, j'ai été violé. Non, c'est pas un mauvais souvenir.
Ah oui, c'est ça dont tu veux parler.
Ouais, non, c'est pas grave, c'est passé.
Quant à vous, José, dans ces années 60, fin des années 60, vous avez grandi à Paris.
Oui.
Et vous avez déclaré dans une interview, je crois que c'est au Parisien, où vous dites mon côté espagnol a forgé une forme de caractère, une force de caractère. C'est quoi votre côté espagnol? Comment vous le définiriez ce côté espagnol?
Non, parce que le côté espagnol, c'est ce que je disais, c'est que l'Espagne, c'est avant tout le tragique. Et parce qu'il y a du tragique, en fait, il y a une force de vie absolument démente. Et je pense toujours à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, solennel. C'est toujours nourri de beaucoup de force. force et en même temps de...
Il y a beaucoup de pudeur aussi, je trouve.
De beaucoup de pudeur.
C'est du théâtre, cette dramaturgie.
C'est réel, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que dans... Bah, vous savez, il y a l'Espagne, c'est surtout il y a les années de franquisme, il y a eu la guerre civile, c'est quand même un pays très fort par rapport au fait de défendre ses opinions, ses idées. On va jusqu'au sang, quoi, jusqu'à là on voit les gilets jaunes ici à Paris, mais en Espagne, il faut pas oublier qu'il y a quelques années, là, il y a eu une crise terrible et tout. Il y avait 1 million de gens dans la rue en train de scander et tout. C'est justement le sens du tragique. C'est-à-dire que vous sentez ça dans toutes les œuvres de peinture espagnole. Il y a le sens du tragique, le sens du sacrifice, il y a toujours du sang. Il y a quelque chose de très fort. Et puis il y a la tauromachie qui est quand même un des symboles quand même du combat entre l'homme et la bête. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans ce pays.
Pardon, du combat entre l'homme et la bête et de la mise à mort faite spectacle. C'est ce qui pose un problème.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient du fin fond de
des rituels.
C'est un rituel. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est voilà. Et donc ce côté tragique, justement parce qu'on a toujours la mort qui est présente, tout d'un coup, ça donne une force de vie absolument démente. C'est-à-dire que les gens sont comme ça, dans une espèce d'énergie démesurée.
Et vous racontez que vous êtes allé à l'école assez tard. Votre maman vous a gardé longtemps près d'elle.
Oui, c'est la trouille, de me jeter en pâture.
C'est vrai, la trouille de vous laisser.
18 ans.
Oui, 18 ans et demi, j'étais ressorti.
Non, pourquoi la trouille de vous envoyer à l'école?
Parce que eux, ils n'étaient jamais allés à l'école et que c'était difficile de m'envoyer là-bas. Et puis d'ailleurs, c'était un choc. Je suis arrivé là-bas, je comprenais pas où tout le monde avait appris les chansons. Tous les enfants chantaient des chansons. Je me dis, mais putain, mais où est-ce qu'ils ont appris?
C'est vrai.
Je ne savais pas je ne comprenais pas pourquoi ils chantaient tous ensemble des chansons que je ne connaissais pas. Moi, je suis arrivé avec mes chansons à moi et personne ne les a reprises en
cœur. Qui étaient des comptines d'enfants ou qui
étaient des comptines d'enfants. Mais moi, j'avais des chansons espagnoles
en tête. De la radio.
Donc c'était le choc a été fort. Quoi.
Parce que ce qu'il nous a chanté en arrivant ce matin à la radio, José Garcia, c'est...
Ben voilà. C'est une très belle transition.
Vous entendez ça, vous vous retrouvez dans quelle situation? On est là en 89.
Oh bah écoutez, c'est des moments d'insouciance. Voilà, j'aime bien l'insouciance. Par les temps qui courent, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, d'en avoir un tout petit peu.
Gros carton au top 50, cette chanson.
Et puis surtout, il faut essayer de regarder bien le texte parce que c'est assez complexe à décrypter.
Au moins, vous savez, les paroles de chansons.
Vous n'avez pas gaffé. En 89, c'est vos années Canal+. Vous commencez comme chauffeur de salle.
Oui, exact. Ouais.
Et vous rencontrez Antoine de Caunes.
Oui, d'abord Albert Algou, qui est ici présent, avec qui nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et Carl Zéro.
Mais pardon, ça veut dire quoi, d'abord Albert Algou? Parce que vous n'êtes pas tous rencontrés en même temps, au même moment?
Non, parce que moi j'étais chauffeur de salle, et le premier avec qui les premiers avec qui j'ai travaillé, c'est Albert et Carl Zéro. J'ai fait une... D'ailleurs, c'était extraordinaire, parce qu'Albert, on s'est rencontrés tout de suite, on est devenus très, très amis, et Carl Zéro m'a donné tout de suite ma première chance, c'est-à-dire qu'il m'a fait travailler dans une pub qui s'appelait SOS Sentier Battu, qui a un problème, tu m'appelles, et j'arrivais en Porsche, et j'étais déjà Serge Benhamou. Vous vous rendez compte? Mais personne n'en parle. À chaque fois, je parle de Carl Zéro, d'Albert et tout ça. En fait, on ne sait pas que
parce pendant qu'il y a un duo mythique avec Antoine de Caunes.
J'ai travaillé avec eux en premier et que voilà, on faisait des
programmes,
on faisait plein de trucs. Avec Albert, on a fait des centaines de sketchs et après, on a fait la météo. On était en majorette. On est deux majorettes. Plutôt assez sympa.
C'est sympa de le rappeler.
c'est bien. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a.
C'est toujours osé, ça. C'est sympa.
Ouais. Et Jean-Paul, à ce moment-là, vous écoutiez les Bangles. Non, vous écoutiez pas les Bangles, pardon. C'est nous qui avions choisi. C'est nous qui avons choisi les Bangles.
Ah, mais c'est pas que Jean-Paul Roux, donc il choisit pour faire la place.
Non, Jean-Paul, vous nous avez pas donné la musique que vous écoutez en 89, donc moi
il a signé sans faire gaffe.
Ah, d'accord.
Une décharge, j'ai cru que décharge. À Jean-Paul Ruve.
Tu serais connu, t'aurais pu choisir.
C'est ça. J'ai pris un tube de ces années 90, voilà. Était dans le flame. Bangles.
Bangles, c'est bien, c'est un bon choix.
Ça vous va?
Je suis content d'être dans l'émission d'Arthur. Arthur et Claire Chazal. Je suis vraiment heureux.
C'est moche.
Ah bah tu t'en sors avec moi.
Vous dites ça pour mon teint soleil, c'est ça? Et Jean-Paul Rouve, ouais. Ça j'ai failli encore vraiment. Pardon. C'est les années Cours Florent. C'est les années Cours
89,
Florent.
Ouais, c'est ça.
Isabelle Nanty,
oui.
Les futurs.
Enfin, vous descendez du Nord Pas-de-Calais pour venir au Cours Florent.
Je suis en études. Je fais mes études à Lille à l'époque. et j'ai une amie qui est au cours Florent et je descends aux vacances de Noël, je me souviens, pour revenir comme ça en auditeur libre, c'est donc chez Isabelle Nanty. Et là, je me souviens, je suis aux vacances de Noël, donc j'habite chez mon ami, et j'appelle mes parents en disant, voilà, je veux pas retourner à la fac, je veux rester là, et je commence à rentrer, et je rentre en cours Florent en janvier.
Ouais. Et vous faites des petits boulots, forcément.
Oui,
comme,
bien sûr.
Comme beaucoup, ah bah oui. Avec PEF, notamment,
avec
je crois.
Avec PEF, ouais, on était...
PEF,
ouais. On était homme sandwich sur le parvis de la Défense avec PEF.
On aurait payé pour voir ça, en fait.
Mais ouais, on avait vraiment homme sandwich avec les panneaux et tout, il y avait du vent, c'était vacances à Noël, je me souviens, et tout, pour le salon des antiquaires.
Ça doit être bien pour draguer, ça, non?
Oh là là, mais quel ça, enfer,
oui. C'est
ramassé avec deux panneaux, ouais. Quand même.
Et puis, vous donnez des cours de maths aussi?
Et je donne des cours de maths aussi, pas loin d'ici, d'ailleurs, parce que moi, j'habitais juste à côté, j'habitais à avenue de Versailles, j'avais une chambre de bonne avenue de Versailles. Et ça
à côté de la maison de la radio.
Ouais, je venais, je passais devant la maison de la radio et tout, c'est des bons souvenirs ici, c'est le début.
Sauf que vous précisez pas que vous êtes nul en maths.
Bah, j'étais pas très bon, enfin, j'étais pas nul,
de maths,
j'étais pas très bon. Bah, j'étais pas très bon, j'ai fait croire, et il était en première, le môme. Et là, des fois, il y avait des exercices, je comprenais rien. Donc, je lui disais, écoute, pour comprendre ça, parce que moi je comprenais pas. Pour comprendre ça, faut revenir en arrière. Faut revenir à la base.
Sur les fondamentaux. 2
voilà,
plus 2.
Voilà, c'est ça. Je revenais aux bases. Mais j'ai fait un an quand même, hein, ça. Un an. Mais attends, je gagnais ma vie. Hein.
Là, dans de prison, ouais, t'as fait.
Dans de prison. Ouais.
En 2004, à la radio, on entendait.
Ah, ouais.
Outcast. Et José Garcia faisait le commissaire.
Oui, il devient la plus belle femme du monde. C'est ce que vous avez dit dans une interview en devenant un chômeur qui devient un serial killer dans Le Couperet de Costa Gavras. Vous dites, je suis devenue la plus belle nana du monde. Pourquoi ça?
Ah, je sais pas. À l'époque, vous savez, j'avais des fulgurances quelquefois. En fait, mon passé était encore pas loin et les barésines me manquaient. Parce que je crois que j'ai l'impression.
Ouais.
En fait, ce qui est formidable, c'est d'être choisi. On est toujours sous le charme. Je veux dire, même encore, là, dans le film avec Jean-Paul, j'étais tellement touché qu'il pense à moi que c'est formidable d'être choisi comme ça et d'être désiré pour un film où tout d'un coup vous correspondez à quelque chose qui a été écrit.
C'est joli.
2 ans auparavant.
C'est joli ce que vous dites parce que cette notion de désir, on l'emploie souvent sur les actrices. C'est les réalisateurs, comme s'il y avait un rapport et un jeu de séduction homme-femme, entre guillemets. Lourd de sens. Exactement. Mais là, vous parlez de ce même désir entre Jean-Paul et vous.
Mais oui, parce que c'est formidable, parce que tout d'un coup, il a pensé d'abord à Ramzy pour un rôle, et puis après, il a pensé à moi. Ouais. Et comme on se connaissait pas énorme, on a un rapport on s'est rencontrés un peu sur les Robins, on a fait un dessin animé, enfin plusieurs dessins animés ensemble, mais on travaille pas ensemble. Et je suis toujours sous le charme, quoi, de me dire qu'il y a des gens qui pensent à moi.
Et dans ce cas-là, on se dit pourquoi moi?
Et d'autres acteurs, en plus. Ouais. D'autres acteurs qui pensent à moi et qui ont envie qu'on joue ensemble. Donc ça me touche, quoi, ça me touche.
Et vous avez revu Le Couperet récemment ou pas?
Non, je l'ai pas revu, mais je sais qu'il marche très bien. Qu'à chaque fois qu'il passe quelque part, je suis très content parce que voilà.
Et pourquoi
voilà,
vous voulez pas le revoir? C'est gênant de vous voir même.
Je peux plus revoir mon travail, moi.
Même
là, les films, je les vois une fois, deux fois, trois fois à tout casser. Après, je les revois plus parce que c'est. Non. Par contre, de temps en temps, je les revois un petit peu comme ça à la télé ou dans Le Couperet. Ça fait un siècle que je l'ai pas revu, mais.
Et à propos du désir, cette même année, vous jouez donc Podium. On repart un tout petit peu de Podium et de Yann Moix.
Oui.
Apparemment, il ne vous aimait pas, Yann Moix. Ou en tout cas, il n'aimait pas les Robins.
Ah, je crois, oui, mais qu'est-ce qu'il aime aussi, Yann?
Ouais, c'est ça.
Il aime rien. Tu le connais, c'est mon pote, hein. Il aime rien, quoi. Il est fatigant,
alors, comment
ce Yann.
Ça s'est fait, alors, s'il n'aimait pas les Robins?
Je sais pas s'il aimait pas les Robins. Il connaissait pas bien, je crois. Oui, peut-être qu'il aimait pas. Bah, j'ai fait le casting, en fait.
Ouais.
En fait, il cherchait, à la base, en fait, le personnage dans le roman de Podium, c'est un sosie de. Ah, comment il s'appelle? C'est Jérôme, c'est un souci, c'est Jérôme, et c'est un personnage qui est très gros et tout, voilà. Et il trouvait pas le comédien, en fait, il l'a pas trouvé.
Enfin, moi, il pouvait donc très bien l'appeler.
Il est allé ailleurs, quoi, allé ailleurs, on m'a rencontré, ça s'est bien passé avec Benoît, et c'est lui, un matin, qui s'est dit, mais c'est Jérôme physiquement, le look, c'est trop proche de Claude François au cinéma.
Ouais.
Et il a entendu Paul Naref.
D'ailleurs, pardon, c'était le problème aussi de C. Jérôme, dont le véritable prénom est Claude.
Claude.
C'est pour ça qu'il s'appelait C.
C'est
Claude Jérôme. Ouais. Voilà.
Exactement.
Pas que ce soit un Claude de plus, blond,
c'est ça.
Les chanteurs.
Et donc, il a entendu Paul Naref un matin en se réveillant à la radio. Il m'a appelé en disant, écoute, essayons Paul Naref. Mais on pensait pas à quel point ça allait marcher physiquement. C'était que l'idée du look qui lui plaisait au départ.
Et cette même année, il y a aussi Jean-Pierre Jeunet.
C'est la même année, Jean-Pierre Jeunet.
2004, oui.
Ah oui, c'est vrai, c'est la. Oui, exactement, c'est la même année, Jean-Pierre Jeunet.
Ouais, c'était chouette ça.
Mon dimanche de fiançailles, ouais. Là, j'étais fier. C'était un petit rôle, hein. Mais c'était fou parce que c'était un film. Je me souviens, on tournait en. Moi, je tournais le premier jour et on tournait au fin fond de la Bretagne. Et premier jour de tournage. Et c'était, il y avait une copro avec des Américains et tout. Donc c'était des camions partout. Enfin, le film énorme. Levé à 5h du mat, préparé. On est dans le camion, tout est prêt. Et il y a le premier assistant qui vient dans la loge et qui dit, ben, on devait commencer à 8h à tourner, on va pas pouvoir commencer. Ben pourquoi ? On a oublié la caméra à Paris.
Non !
C'est quand même fou.
Mais non.
C'est quand même dingue. Ils ont dû envoyer un fax, donc c'est des fax, ça n'allait pas aux Américains. Premier film produit par les Américains. Des baltringues de Français. Oui, ben, la caméra qui est venue en bagnole de Paris, parce que fin fond de la Bretagne, il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, c'est super drôle. Tout est organisé, il n'y a pas la caméra.
C'est comme si tu invitais quelqu'un, tu ne connaissais pas son nom, quoi.
Ben voilà, mais ça arrive jamais.
Non, enfin, pas ici. Ça arrive jamais. Nous sommes professionnels.
Je sais bien.
Nous sommes professionnels. Qu'avez-vous appris en observant, j'imagine, est-ce qu'à ce moment-là, vous observiez le travail de Jean-Pierre Jeunet en vous disant un jour je vais réaliser?
J'observe le travail de tous les réalisateurs.
Mais pour apprendre.
Hop. À l'époque, je voulais pas réaliser, j'y pensais pas, franchement. Donc, non, je regardais parce que ça m'intéresse. Et Jean-Pierre Jeunet, c'est une manière de travailler très particulière où tout est préparé à l'avance. Tout est vraiment préparé. C'est impressionnant. Je me souviens, à l'époque, il y avait des polaroïdes. Mmh. Des polas de toutes les scènes qui étaient accrochées sur un tableau pour l'équipe. Il avait répété avec des doublures tous les plans. Et ensuite, on voyait tout ce qu'on allait faire dans la journée. C'est impressionnant, Jean-Pierre.
José, ça vous donne envie, vous, de réaliser, de voir ce que Jean-Paul fait, de justement, quand vous dites que la réalisation faite par un acteur est quelque chose de très confortable pour les autres acteurs?
Non, je suis très admiratif, en tout cas, du travail de Jean-Paul, dans le sens où il était aussi bon dans la réalisation que, en fait, il passe de l'un à l'autre très facilement. Il a déjà 4 films, dont voilà 2 dans lesquels il a joué en rôle principal. Mais non, moi, avec la caméra, je pour l'instant, je sais pas comment traduire ce que j'ai dans la tête avec une caméra. En revanche, ce qui me plaît là depuis un an, je suis en train d'étudier la structure et tout ça. Ce qui me plaît, c'est écrire. C'est écrire des histoires parce que ce que j'adore faire en tant qu'acteur.
Et la direction d'acteur, ça va être bien aussi, non ?
Mais comme dit Jean-Paul, la direction d'acteur, en fait, quand le scénario, c'est vraiment la marche à suivre. C'est-à-dire que si on met tout le travail, qu'on travaille correctement sur le scénario, vous le posez sur la table et tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Et en fait, le problème, c'est que souvent, il y a de la direction d'acteur où il y a des problèmes avec les acteurs et avec le metteur en scène quand le scénario n'a pas été abouti, quand il y a eu des erreurs, des choses oubliées. Et en fait, on n'investit pas assez dans les scénarios pour faire un travail complètement abouti parce que sinon, on verrait toutes les lacunes et tous les problèmes qu'on peut avoir. Et du coup, quand vous le posez sur la table, là, l'équipe, elle était complètement au courant de ce qu'on avait à faire.
Oui,
il y avait rien à faire.
Vous rajoutez pas des intentions, vous rajoutez pas des nuances ou des regards en disant tu pourrais me le faire plus comme ci, plus comme ça, moins insister.
Non, c'est pas aussi clair que ça. C'est des moments de vie, je sais pas comment vous dire.
C'est pas tout le long fait comme tu veux.
C'est un peu. Alors, pour donner une image, c'est comme si tous les comédiens, pour moi, comme si on est tous dans le train, on est tous dans le même train. Moi, je pilote le train. Et eux, ils sont dans leur wagon, mais ils peuvent se balader dans leur wagon. Mais on est dans le même train. C'est un peu ça l'image. Et ils arrivent nourris de ça parce qu'ils ont travaillé en amont, les comédiens. On a parlé, ils ont travaillé. Et quand José arrive sur le plateau, déjà on répète pas. Moi je répète pas. C'est tout de suite, allez on tourne, allez on y va. Comme ça je peux des fois voler des choses avec leur consentement. Parce que c'est pas comme avec les enfants où on vole vraiment. Là ils savent que ça tourne, ils savent tout. Mais je leur vole des choses quelquefois dans l'œil. C'est l'œil qui compte. Et quelquefois, ils vont amener une intention qui sera différente de celle à laquelle j'ai pensé, mais qui finalement est plus intéressante parce qu'elle est plus juste, plus énigmatique. Elle raconte d'autres choses.
José, c'est ça justement la différence d'un acteur qui réalise ?
Oui, absolument.
Il permet ça alors qu'un
réalisateur... D'abord, parce qu'à partir du moment où on a compris qu'on tournait les premières scènes, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre la première scène comme on est comme des animaux, quoi.
Avec une fraîcheur.
Et on découvre la première scène et donc tout le monde est complètement dans une acuité, dans une énergie où on va plus se concentrer sur ce qui va se passer et sur l'écoute. Parce qu'en fait, finalement, la chose la plus difficile en tant qu'acteur, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais, c'est l'écoute.
C'est écouter.
C'est-à-dire qu'on peut s'émouvoir pendant des années en tant qu'acteur. On se dit à chaque fois, j'allais chercher de l'émotion. Alors on la cherche, on creuse, on défonce le terrain autour de nous, on va chercher des trucs. Et en fait, le seul truc qui est le plus important, c'est qu'avec le temps, on apprend que, en fait, écoutez simplement la phrase que la personne est en train de vous dire en face. Ça suffit tranquillement pour vous percuter. Et c'est ça voilà, on passe des années à apprendre ça. Et du coup, bah, à partir du moment où c'est en plus super bien écrit, alors là, ça rentre dans le cœur facilement.
C'est tellement juste. Moi, le premier film que j'ai fait avec Gérard, avec Depardieu, c'est ce qu'il m'a dit, Gérard. Premier film, il m'a dit ça, tu sais, on s'en fout, hein, il dit, écoute, il y a ça qu'il faut faire.
Lola et ses frères, très bon film qui sort aujourd'hui sur la fratrie, justement, signé Jean-Paul Rouve, Frères et Sœurs, c'est le livre que vous avez signé, Nina Bataille, merci de revenir à ce micro. Le livre est publié chez Larousse, Une force pour la vie, vous dites cette fratrie, c'est vraiment un monde à part la fratrie.
Ah oui, c'est un monde à part, c'est un système, hein, c'est un mini-système, hein, vous l'avez très bien illustré dans votre film, avec ses codes, ses règles, et chacun son rôle. Chacun qui s'enferme parfois dans un rôle, pour le meilleur ou pour le pire.
Oui, mais qui choisit le rôle? Est-ce qu'on choisit son propre rôle ou c'est la fratrie qui l'attribue?
Je crois que c'est un mélange entre le tempérament des enfants et les étiquettes que vont coller les parents, qui vont renforcer le rôle du sérieux, le rôle du pitre. Si on schématise un peu, c'est pas exactement ça dans votre film, mais c'est un peu ça. Et les parents ont un rôle pour justement renforcer peut-être le côté pitre d'un enfant très sérieux.
Alors il y a évidemment l'inverse. La position d'aîné, cadet, Benjamin, position de la seule fille avec deux frères. Tout ça doit évidemment distribuer les cartes différemment.
Ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'en fonction des écarts d'âge, est-ce que c'est les mêmes sexes ou pas, il va se passer des choses différentes. Et là on voit bien que la petite sœur prend le rôle de petite maman. Vous avez dit, c'est une maman, mais c'est pas la maman autoritaire, c'est la petite maman.
C'est la petite maman,
ouais. Et vous êtes les protecteurs quand même.
Exactement.
Ça, c'est entre guillemets normal, entendu, une sœur avec deux frères ou un frère avec deux sœurs, c'est-à-dire celui qui est au milieu servira de médiateur ou de médiatrice en cas de conflit ou de jalousie ou de crépage de chignon?
Pas forcément, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des tempéraments, de ce qui s'est joué dans l'enfance, pas forcément. Celui du milieu, il peut jouer le médiateur dans le sens où il est souvent plus flexible, parce qu'il a appris forcément à plus le compromis que les autres. Par exemple, quand il est petit, on le réveille pour aller chercher le grand. Et puis après, il y en a un autre qui arrive. Donc il est toujours un peu obligé. Donc forcément, les cadets, ils ont tendance à être flexibles. Donc médiateur, ça va un peu ensemble.
Et on traîne toute sa vie, évidemment, quand on a des frères ou des sœurs, la question de est-ce que papa, maman préféraient un tel que l'autre? J'imagine que ça, vous l'avez dû entendre. Parce que je rappelle que vous êtes coach aussi.
Oui.
Donc vous avez dû entendre des témoignages qui allaient dans ce sens aussi.
Bah oui, c'est ça. En fait, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter en deux secondes. Imaginez que votre femme rentre ce soir et vous dise « Nagui, j'ai rencontré un autre homme, il est génial, je l'amène dans 9 mois. Alors comme il est génial, tu vas prêter ta chambre, tes affaires. Et alors, cerise sur le gâteau, il est là à vie. »
C'est drôle.
Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais non, ça va pas la tête.
Elle le fait souvent, mais elle ne me prévient pas de 9 mois avant. Généralement, c'est 9 minutes.
Pardon. Je voulais pas parler de
la, la dernière fois, c'était Jean-Paul.
C'est juste pour illustrer avec une image que
comprends.
L'amour ne se partage pas. Et on
si.
Alors, l'amour c'est difficile.
Bah si, au contraire.
C'est
je vous montre des films, vous allez voir.
C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Alors pardon, c'est ce que j'arrête pas de dire à mes enfants.
L'amour se partage, mais c'est pas naturel. C'est pas naturel.
L'amour
ça s'apprend.
Se partage et au contraire, plus on est, plus on va s'aimer.
Mais laisse-la parler, c'est la spécialiste. Si elle te dit que ça, allez-y.
Toi pour toi, ça se partage pas.
Mais moi j'écoute. Et j'apprends, j'essaie de voir.
Pardon, je suis allée trop rapidement. Vous avez raison.
Ouais, vous adressez à Nagui et parlez doucement.
Non, faut pas être trop sympa avec lui non plus, pas parce qu'il présente. Faut dérouler à tout.
Non mais il a raison. L'amour. Ça, on apprend à le partager, mais ce n'est pas naturel.
Ouais. D'accord.
Donc, on va l'apprendre à nos enfants qui vont souvent se dire, mais est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis et est-ce qu'on m'aime encore toujours? Donc, c'est pour ça qu'il y a la jalousie, parce que c'est cette espèce d'équilibre qui est toujours à retrouver et cette espèce de réassurance qu'en tant que parent, on doit régulièrement redonner à ses 4 enfants.
Dans Lola, merci. Dans Lola et pour la consultation gratuite. Dans Lola et ses frères, les parents ne sont plus là. Là aussi, ça change la donne.
Oui, ça change la donne. Alors là, dans leur cas, ça a été salvateur quelque part, parce qu'ils continuent à se voir autour de la tombe. C'est très drôle, hein, comme circonstance.
Ouais, on s'est dit que c'était un peu comme si c'était le dîner. Si les parents étaient là, ils iraient manger le gigot le dimanche. Ouais. Et là, c'est leur rendez-vous. Oui.
Et puis ils touchent la tombe avant de partir,
oui,
comme
un
baiser.
Là, les parents. Et puis ils servent surtout des parents. Enfin, les parents sont pas là, mais quand ils ont quelque chose à se dire, comme ils osent pas se le dire en direct, ils le disent aux parents.
Ouais.
Pour que les autres l'entendent.
Pour que les autres l'entendent.
Ouais. C'est ça, c'est très habile. Ouais. C'est, voilà, ils se disent des choses comme ça de manière interposée, mais quand les parents sont plus là, ça peut faire aussi éclater une fratrie, parce que s'il y a eu trop d'injonctions de aimez-vous les uns les autres, parce que ça se décide pas, ça se, c'est en trouvant des activités qu'on a plaisir à partager ensemble.
Maintenant qu'il
n'y
a plus de gardien de cet amour, ça va, quoi.
Voilà, ça peut faire éclater aussi une fratrie, donc c'est pas, voilà, bon, dans votre cas, c'est super, ça a permis de.
Comme ça peut les rapprocher aussi, de se dire, on se faisait un peu la guéguerre, où il y avait des jalousies quand les parents étaient là, maintenant qu'ils sont plus là et on est frères et sœurs. Oui. Et c'est ce qu'on ressent aussi dans le film.
Oui.
C'est-à-dire que quelles que soient les fâcheries, quelles que soient les situations, ça va. C'est ça mon frère. C'est la réponse, c'est mon frère. Donc c'est...
Il ne te reste plus que.
C'est super beau, c'est super beau, c'est vraiment une force, quoi.
C'est du divin, Sanier qui dit ça. Qui, ça
c'est du divin qui dit ça, ouais.
C'est
ouais.
mon frère.
Ouais.
C'est la réponse à toutes les questions, à tous les problèmes.
On ne peut pas répondre à ça, j'adore ça.
Comment définir cet amour d'ailleurs entre frères et sœurs ou entre frères ?
Ben là, c'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est je t'aime parce que tu es mon sang. et l'amour entre frères et sœurs, ça peut être ça. C'est il n'y a pas de condition. T'es mon frère. Voilà.
Oui, c'est pas un individu quoi. C'est plus que ça.
C'est
fait.
Sans condition.
Ouais.
De la rivalité à la complicité, c'est chez Larousse et elle sait de quoi elle parle. Ouais. Merci beaucoup Nina Bataille d'être revenue nous parler et bravo pour ce livre chez Larousse. Tanguy Pasturo.
Bonjour.
T'as un frère, t'as une sœur, toi ?
Oui, un petit frère.
Un petit frère. Mmh. On l'embrasse, courage. Les journalistes se font agresser quand ils sortent dans la rue maintenant.
Oui, rien que ce week-end, lors des manifs des Gilets jaunes, il y en a une qui a reçu de l'eau, un autre a eu un œuf, il manque plus que la farine et ils font des crêpes. Les gens sont énervés. Le premier qui passe avec un micro se fait allumer. S'il y avait une météo sociale, Evelyne Delia serait en string à annoncer 32 degrés à Paris, 29 à Toulouse.
On en parle après les infos de midi. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour.
Oui, bonjour.
Tanguy Pasturo. Pierre Mobile.
Absolument.
Bonjour. Avec vous. Daniel Morin. Oh, et nos bonjour. Invités José Garcia
bonjour.
Et Jean-Paul Roux.
Oui.
Lola et ses frères sort aujourd'hui, quatrième film réalisé par Jean-Paul, vécu comme un cadeau, José Garcia l'a dit tout à l'heure, avec ce bonheur de jouer, de vous retrouver aussi entre bons comédiens ou comédiennes. Qui connaissiez-vous d'ailleurs du casting ? Avec qui avez-vous déjà travaillé,
tout le
José
monde,
Garcia ?
Ludivine, en fait, je l'ai rencontré il y a des années. On avait fait un court-métrage, elle avait 13 ans à l'époque. Elle était toute jolie, toute mimi, comme elle est encore
donc
maintenant.
C'était avant le Ozon.
Oui, c'était quand on était à Canal, on avait fait une espèce de petit court-métrage sur l'écologie, produit par Jean-Luc Delarue. Et voilà, c'est là qu'on s'est vus. Moi, elle faisait une petite fée de la forêt, puis moi, je détruisais la forêt. Je voyais comme quoi, je détruis toujours, moi.
Alors justement, tiens, puisque vous parlez de l'écologie, c'est une question que nous posons à tous les invités dans la semaine. Quel est votre geste pour la planète ? Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, pour la planète ?
Oula, alors...
Quelle que soit l'importance du geste. Hein.
Oui, alors je suis parrain déjà d'une fondation qui s'appelle AQEO Énergie. Là, on est en train de faire un documentaire qui est basé sur l'enfance et comment les enfants, à travers le monde, sont en train de donner une leçon aux adultes. Donc voilà, ça fait des années maintenant.
Ils donnent une leçon
en leur apprenant qu'il y a des centaines de choses que l'on peut faire tous les jours. Ça va de travailler la terre pour faire des constructions. Enfin, vraiment, ils ont des milliers d'idées. Et voilà. Et puis ça fait des années que j'ai la chance d'être parrain de cette fondation. On fait des écoles dans plein de pays du Maghreb. Voilà, il y a tout un travail sur l'écologie. J'apprends en même temps que je suis parrain de cette fondation. Voilà.
Alors au-delà de votre
implication,
notoriété que vous mettez au service de cette fondation, quel est votre geste citoyen ?
Écoutez, ça commence par, vous savez, la phrase de Pierre Rabhi, je fais le petit colibri qui amène, je fais tout ce que je dirais qu'on peut faire, c'est du tri sélectif jusqu'à faire attention, jusqu'à utiliser, j'ai une toute petite voiture, là, je vais passer à l'électrique, j'attends qu'il y ait les installations nécessaires,
ouais,
voilà.
Des bornes. Fais pipi dans la douche?
Non, ça c'est quand même, j'ai aussi une éducation.
C'est fou. T'as des préjugés quand même.
Voilà, je n'urine pas pendant que je parle, enfin je fais plein de choses comme ça.
Et vous, Jean-Paul Rouve, que faites-vous pour la planète ?
Je fais le tri, oui, bien sûr.
Il fume, voilà. Il fait gaffe à ses mégots.
Non, je fais le tri des déchets. Qu'est-ce que je fais avec mon fils, tout ça, je lui dis de ne pas laisser couler l'eau quand il se lave les dents. C'est vrai,
c'est important.
Voilà, des petites choses.
qu'est-ce d'éteindre, que je...
d'éteindre la lumière quand on sort de la pièce.
Ah bien sûr, mais ça j'ai appris ça.
Ouais, mais non, mais pardon,
ça j'ai appris ça petit moi. À la maison, c'était ça. Tu quittes une pièce, t'éteins la lumière. Enfin, c'était la base.
Donc, et puis, comme a dit Joe Star hier, on n'est pas à Versailles ici. Ouais. C'est cette phrase aussi que j'entendais.
On n'est pas chez Rothschild.
Non, puis il y a un autre truc, c'est le combat permanent qu'il faut faire. Nous, on est très souvent, vous savez, dans les hôtels, toujours en déplacement et tout. Et c'est dingue de voir à quel point on est obligé de toujours d'accrocher sa serviette à un endroit pour garder la serviette.
Pour pas qu'elle soit relavée.
Voilà, relavée ou renettoyée, ouais.
Mais dans les hôtels maintenant, ils disent si vous voulez qu'on change, vous le mettez dans la baignoire ou pas. Ouais. Donc ça, c'est bien.
Lui, il a fait livrer des. Enfin, grâce à lui, des gourdes ont été proposées à toute l'équipe. Donc
il m'a volé la mienne.
C'est vrai ouais. Avec ton nom dessus.
Ouais.
Tu sais déjà que c'est un Albert.
C'est un Albert. Ouais.
Voici Tanguy Passero. Tanguy, avant, être journaliste, ça paraissait formidable.
Oui, quand j'étais petit, cette période bénie, on n'a rien à foutre à part tirer sur la queue du chat ou se faire faire une greffe de peau du visage à l'hôpital si jamais le chat l'a mal pris. Ces bêtes ne sont pas aussi en demande que nous. Eh ben, je lisais Tintin, c'était un journaliste. Et ça me faisait envie parce qu'en 24 albums, on l'a jamais vu écrire un papier. Grosse feignasse, Tintin. Il a eu la même vie que Pénélope Fillon 50 ans plus tard à la Revue des Deux Mondes. Puis j'ai grandi et à la télé, je voyais PPDA qui d'année en année avait plus de cheveux. À la base, c'était Kojak. À la fin, s'il était monté sur scène à Kingston en hurlant Jah Rastafari, tout le monde aurait dit purée, c'est Bob Marley. Journaliste, c'était prestigieux. Moi, en 85, je rêvais en regardant Alain Duhamel. Puis en 86, j'ai découvert Samantha Fox et j'ai lâché Duhamel parce que sur la tête il avait toujours une raie impeccable mais que c'est plus celle-là qui m'intéressait. Ensuite, le journalisme s'est perdu, c'est vite devenu que de l'image. Sur LCI, ils se sont mis à faire des couples de présentateurs mixtes. Un vieux moche, une fille de 19 piges en décolleté. On avait l'impression de voir des riches en fin de vie qui se tapent de jeunes russes vendus par leurs parents pour pouvoir acheter des chips. Et aujourd'hui, il y a des journalistes partout. BFM, CNews, Info. Parfois, Bayrou arrive en meeting, il dit merci à tous d'être venus pour ce congrès du Modem. En fait, en face de lui, il n'y a que des journalistes qui filment son dernier fan, René, venu là parce que toute sa famille est morte dans un accident de bus et qui n'a plus personne d'autre à écouter. Donc, être journaliste naguère, c'était fabuleux. Rudyard Kipling, avant d'écrire le livre de la jungle, un bouquin sur la coupe d'Alain Souchon, était journaliste. Georges Clémenceau fut journaliste. C'est lui dont se réclame Manuel Valls. Quand on passe près de la tombe de Clémenceau, on entend « Non, pas lui, je préfère encore être admiré par Estrosi ». Et aujourd'hui, Mélissa Thériault, Ophélie Meunier sont journalistes, mais aussi des gens aux physiques normales, comme Jean-Michel Apathy. Et c'est devenu plus facile de le devenir. Regardez Christophe Barbier. Il était mannequin aux Trois Suisses automne-hiver, les pages consacrées aux écharpes. Et là, le matin, il est à BFM, il n'a pas changé. Dès qu'il retire son écharpe, il n'y a plus personne qui le remet. Parfois, pour faire l'amour, il l'enlève. Sa femme se met hurler, mais enfin, qui êtes-vous? Dépêchez-vous, mon mari va revenir. Car le journaliste star a un gimmick, un truc à lui. Barbier, c'est l'écharpe, de la housse, la mèche. Arlette Chabot, le fait d'avoir l'air prêt à en finir avec la vie. Donc, on devrait adorer ces gens parce qu'on les voit à la télé. Or, ça fait rêver la télé. Moi, à chaque fois que je vois Taratata, je rêve d'être un chanteur. Quand je vois les reines du shopping, je rêve d'être une poufiasse.
Bon, le problème maintenant, c'est qu'en 2018, être journaliste, c'est compliqué.
Oui, parce que les gens sont en colère. Il y a un truc qui gronde dans le pays qui est plus fort que l'estomac de Gérard Larcher quand arrive l'heure de déj. À Toulouse, des journalistes de BFM samedi ont été pris à partie par des gilets jaunes au cri de BFM collabo. C'est fort, collabo. Ça rappelle le temps où les Allemands en France n'étaient pas ces placides retraités sans slip, venus se dérouiller de oui-oui au Cap d'Agde. Collabo, ça signifie que Macron est un dictateur et que la presse roule pour lui. Or, ça fait deux ans que les mêmes gens de BFM font 48 heures de breaking news dès que Macron dérape. La phrase sur les Gaulois réfractaires, il devait y avoir en plateau 15 spécialistes, dont deux de l'époque gallo-romaine, plus Philippe Etchebest venu parler de la cuisson du sanglier. Et sans les chaînes Info 24-24, les mêmes gilets jaunes, on les verrait moins. À l'époque de l'ORTF, l'équivalent de Castaner appelait Jean-Michel Travail, c'était le Gilles Boulot de l'époque, pour lui dire « Bébé, on va faire comme à Koh-Lanta, c'est Denis Brognard se faisait graisser la patte par les rouges, je veux pas du tout qu'on parle des jaunes. » Et c'était plié. Et puis, il y a les fake news sur le net. Il y en a une, plus relayée qu'une vidéo insolite où Fabrice Luchini serait filmé en train de garder le silence, qui dit qu'un décret a aboli la constitution de la France et donc que Macron n'est pas légitime. Le truc, il y a des millions de gens qui le voient, ensuite il se met sur BFM, qui n'en parle pas. Bah, ils se disent « Ok, il protège l'autre vendu, alors qu'il est moins à sa place que Lou Doyon, si c'est elle qui remplaçait Brian Johnson au chant dans ACDC. » Et du coup, la situation est chaude. À Toulouse, un journaliste de CNews s'est fait quand même pourchasser dans la rue. À Paris, une note de Quotidien, l'émission branchée des types qui écoutaient l'album de l'année il y a déjà 3 ans, a été insultée.
donc aller dans la rue, c'est chaud. Il va falloir rappeler Alexandre Benalla avec deux nunchaku pour qu'il protège le moindre gonce qui doit filmer un rond-point bloqué. Et le souci, c'est que la presse, on a toujours l'impression que c'est l'élite. Alors qu'en fait, les trois quarts des mecs sont dans des rédacs web à devoir sortir 10 papiers par jour pour la même paye que le chien dans la série Rex. À part Edoui Plenel, qui se permet de taffer 4 mois sur Cahuzac en se lissant la moustache avec ses crottes de nez. Et puis quel enfer! Vous tapez sur Macron, on vous dit salaud, vous faites du bashing. Vous sortez dans la rue, on vous dit salaud, vous le protégez. Mais le problème, c'est pas les journalistes. C'est qu'eux vont dans la rue. Et la rue, c'est une poudrière devant laquelle on aurait placé un pétomane excessif. Des proches et prévôts qui font les cons avec du boudin dans une boucherie aujourd'hui. Vous avez le boucher qui les braque au fusil à pompe en criant halte aux médias complices. Plus la fachosphère qui écrit pouvait être sûr que c'est du halal. Plus les indigénistes qui disent et pourquoi il est blanc, le boudin? Personne n'est plus cool. Moi, la rue, j'y vais plus. Je peux. J'ai pas un rédac chef bien au chaud qui m'envoie au casque.
Merci.
Bravo.
Lola et ses frères, c'est aujourd'hui au cinéma Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve, Ramzi Bédia, Pauline Clément II, la comédie française, Philippine Leroy-Beaulieu, Franck Bruno, Jacques Boudet. Un film écrit, co-écrit par David Fuenquinos et vous-même Jean-Paul Rouve. Dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui? Le film est sorti ce matin à 9h.
Ouais. Ah là là, c'est une angoisse, mais c'est tellement une angoisse à chaque fois que vous sortez un film, c'est fou, c'est fou.
C'est combien d'années de travail?
C'est 3-4 ans presque. Ouais, 3 ans, ouais, 3-4 ans entre l'écriture.
Dont le résultat est décidé en
ouais,
une journée.
Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Mais même pas en une journée. Après, le 9h des Halles, c'est pas, ça ne conditionne pas le film encore. Mais déjà, vers 14h, 15h, vous savez, en fait. Vous savez. C'est fou.
On sait la vie qu'aura le film.
À
on
peu
sait
près.
Les coefficients entre ouais. Paris et province. C'est
exactement.
Et tout ça.
Donc, on sait au final combien il va faire, à peu près.
Et pourtant, vous y retournez.
Mais c'est fou. Hein. Ouais. Et à chaque fois que vous faites ça, vous dites c'est le dernier, j'en fais plus.
C'est vrai.
Oh non, on passe à autre chose. Et puis après, vous oubliez. C'est ça qui est beau, vous oubliez, puis vous y retournez.
Vous avez déjà envie de d'y repartir là.
Ben avec David, on a déjà une idée pour le prochain. Ouais. Avec David, on a déjà une idée de sujet. Et on commence à en parler tout doucement. Oui.
Ce qui est fort aussi dans Lola et ses frères, pour revenir au sujet du film, c'est que et on a tous. Enfin, je sais pas. Vous avez des frères et des sœurs dans la vie, José?
Non. J'ai pas.
Ouais, ah mais c'est vrai, vous êtes tous les deux
fils uniques.
Tous les deux fils uniques et tous les deux. En incarnant une fratrie, donc vous pouvez pas savoir ce qui est vrai.
Bah, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, on ne sait pas, mais bon, et vous savez, quand on joue un aveugle.
Bah, tu fermes les yeux aussi, tu veux
fermer les yeux.
Ce qui est fort de constater, c'est que ayant la même famille, le même sang, les mêmes gènes, la même éducation, ça ne donne pas les mêmes caractères, ça ne donne pas les mêmes êtres humains. Chacun dessine sa vie.
Exact.
Et c'est ce que l'on voit aussi dans le film.
C'est ça qui est beau.
Il n'y en a pas deux qui se ressemblent dans la fratrie.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que le parcours est complètement différent parce qu'on arrive tous de manière unique sur cette planète. Et on arrive tous avec des gènes, avec un ressenti qui est complètement différent. C'est la force de l'âme humaine.
Vous
c'est
le
ça
voyez qui... avec vos filles?
Absolument. Elles sont complètement différentes et en même temps, elles se ressemblent sur plein de points. Ouais, c'est ça qui est formidable. C'est que, en fait, les êtres humains, c'est vraiment c'est un cosmos, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, le respect de l'individu, c'est tellement important.
Et l'amour que vous avez pour les acteurs, Jean-Paul, passe aussi par l'amour de les filmer, le plaisir de les filmer, la manière dont vous cadrez, dont vous éclairez, aussi bien garçon comme fille.
Bien sûr.
La caméra les met en valeur. Il y a un jeu de séduction.
Je veux qu'ils soient. Oui, je veux qu'ils soient beaux, quoi.
Oui, que soyez
dans tous
les
sens.
Ouais, vous voulez qu'on les aime.
Ouais,
en fait.
Parce que moi, je les aime. Et si vous aimez les acteurs, ils ressentent quand ils jouent et ils vous donnent tout parce qu'ils ont confiance.
Ouais.
Parce que c'est le regard que vous allez chercher. Et le regard, un acteur, il peut tout jouer, mais il peut pas tricher. Il peut tout tricher,
mais pas le regard.
Il peut tricher. Il peut pas tricher le regard. Tu peux pas, c'est impossible. C'est pas possible. Il y a un truc en plus dans l'œil. Quand tu vois les grands, grands, grands acteurs et que tu vois une scène, souvent, quand on regarde, on dit oh, « Tiens, on est touché par cette scène. » Bah souvent, si vous disséquez pourquoi, c'est souvent quelque chose dans l'œil qui passe.
José ?
Oui, je suis d'accord, bien sûr. Il y a, c'est vrai que le regard porte tout un trajet de vie, beaucoup de choses qui sont enfouies. Et c'est vrai que c'est dans le regard, souvent. En tout cas, l'expression, ça dépend. Charles Bronson, c'était pas évident de découvrir vraiment ce que Charles Bronson pouvait penser. Mais il y a certains acteurs, c'est pas évident. Il y a... C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des westerns, d'ailleurs. Nous, on serait incapables, parce qu'on sentirait la trouille de sentir le flingue.
Et pourtant, certains ont le regard vide, comme Daniel Morin.
Allez, aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est jour de sortie ciné. Alors il y a bien sûr l'excellent film Lola et ses frères, film de Jean-Paul Rouve avec José Garcia et Ludivine Sagnier entre autres. Mais pas que, il y a aussi Robin des Bois, le héros qui picorige pour donner aux pauvres, sauver ou périr, le travail de reconstruction d'un pompier victime des flammes. On a reçu Pierre certains Billet. Comédiens. Ouais. Ou encore le Grinch, un dessin animé de Noël, où le vilain, le Grinch, veut carrément voler Noël. Eh bien, ma foi, tous ces films divers et variés, ça donne envie et souvent on ne sait pas que choisir. Ce serait bien plus simple s'ils étaient tous des films France Inter, avec ce petit ton de déprime assumé, mais avec toutefois un zeste de fantaisie. Bandes annonces ! Aujourd'hui, mercredi 28 novembre, France Inter vous propose ses sorties partenaires. Robin des Bois, avec dans le rôle de Robin, Jeff Tuche.
Petit Jean !
Ouais ?
Tu sais, je commence à avoir plein le dos piqué aux riches pour donner aux gilets jaunes.
Mais c'est notre mission, Robin.
Ouais d'accord, bah maintenant ça me casse les pieds de tout donner, regardez. Moi aussi j'ai des envies, moi aussi j'ai des besoins. Je veux connaître l'ivresse, la consommation de masse.
Oui mais faut résister, Robin.
J'ai même pas pu profiter du Black Friday, tu te rends compte?
Est-ce que Robin va craquer, garder tout le pognon pour profiter des soldes, ou bien reviendra-t-il à la raison? Vous le saurez en allant voir Robin des Bois. Ça a l'air trop bien. Ce 28 novembre, ne ratez pas la sortie de Sauver ou Périr, l'histoire terrible d'un pompier victime des flammes et en grande souffrance avec dans le rôle du pompier, Jeff Tuche.
Oh, j'ai mal. Oh, ça brûle. Oh, je suis en grande souffrance.
Est-ce que ça va bientôt aller mieux pour le pompier? Vous le saurez en allant voir Sauver ou Périr. Beaucoup, beaucoup d'émotions. France Inter et les magasins Toys R Us sont fiers de vous présenter Le Grinch, une merveilleuse histoire de vilain qui veut voler Noël. Avec dans le rôle du vilain Grinch, Jeff Tuche.
C'est toi le Père Noël?
Bah t'es complètement con ou quoi? Est-ce que j'ai une gueule de Père Noël? Est-ce que je ressemble à Émile Louis et que tu n'y crois?
Non.
Bon bah tu te casses, cette année y a pas de cadeau. Je vais voler Noël, rentre chez toi.
J'ai pas de maison, j'habite dans la rue.
T'habites dans la rue? Avec les gilets jaunes?
Est-ce que le vilain Grinch va réussir à voler Noël? Est-ce que l'enfant habite vraiment avec les gilets jaunes? Vous le saurez en allant voir le Grinch. Bon cinéma à tous, à demain.
Merci, bravo.
Merci à Jean-Paul.
Lola et ses frères, ce très bon film où on passe par tous les états, encore une fois, toutes les émotions sont là. Et comme vous l'avez dit, José, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais chacun peut s'identifier à l'un ou à l'autre de ces personnages, se reconnaître, que l'on ait d'ailleurs des frères ou des sœurs, mais en tout cas dans les émotions et dans les parcours de vie.
Bah écoutez, en tout cas, dans toute la tournée province, ça fait à peu près un mois qu'on a fait vraiment le tour de France. Ce qui est formidable, c'est que c'est rare de se retrouver dans un... Généralement, on nous pose plein de questions complètement différentes, vous savez, dans les débats. Et là, c'est dingue de voir les gens de quelle manière ils se racontent. En fait, ils parlent énormément d'eux. Il y a toujours beaucoup d'émotions parce qu'ils se marrent, parce qu'ils ont envie d'appeler leurs frères, leurs sœurs. Il y a même une phrase, c'était un truc d'un journaliste qui...
Un journaliste sortant qui m'a dit j'ai vu le film, bon, j'ai adoré, et ça m'a donné envie d'appeler ma sœur. Donc je l'ai appelée pour dire ce serait bien qu'on se voit, qu'on déjeune ensemble. Elle a dit qu'est-ce qui se passe, il y a un problème.
C'est fou, c'est
fou. Hein.
Mais ça veut dire que le film parle, résonne.
Oui,
c'est
touchant, c'est très très touchant.
Mais en même temps, vous abordez plein de sujets, que ce soit le deuil, la solitude, le chômage aussi.
La société,
l'amour, la difficulté de construire une vie, de trouver le partenaire adéquat, la temporalité, c'est-à-dire quand on a l'impression qu'on peut faire quelque chose avec quelqu'un parce que quelqu'un est peut-être parti, parce qu'on a tardé à le saisir en fait. Donc et c'est vraiment hyper universel de ce point de vue-là.
Et le regard des autres, parce que c'est vrai qu'il y a votre fils ado
qui lit
des philosophes, qui regarde des documentaires en allemand.
Des Kundera pour la deuxième fois.
C'est ça.
Qui relit comme ça un soir.
Et qui regarde des documentaires en allemand sur Arte.
Il a tout pris de sa mère en fait.
Parfait. qui est juste parfait et qui a une sensibilité où il comprend, où il perçoit, où il est prêt à sacrifier ses études.
C'est un acteur formidable. Il s'appelle Gabriel Nakache et dans la vie, c'est un garçon brillantissime, quoi, et très beau.
Et il y a Franck Bruno aussi, qui est votre pote de chantier, c'est ça, que vous prenez pour le teubé de service.
Ouais, que tout le monde d'ailleurs, dans la salle, tout le monde se dit, le type est quand même à côté de la plaque, et en fait, le mec est juste gentil, quoi.
Ouais. C'est le regard des autres chaque fois qui est pas le bon. Ouais, c'est ça.
C'est les a priori qui sont forts, et on a tous des a priori dans la vie.
Que ce soit sur la famille ou sur ses partenaires.
Tout le temps, dans la vie, tous. C'est ça qui est beau, de casser ses a priori. J'aime ça.
José Garcia, Jean-Paul Rouve au cinéma avec Ludivine Sagnier, c'est Lola et ses frères. Il y a prochainement Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Arnaud Viard.
D'Arnaud Viard qui est adapté du premier roman de Anna Gavalda. Ouais. Que j'ai tourné là avec Alice Taglioni, Camille Rowe, Benjamin Laverne.
Encore histoire d'une fratrie?
Oui, une histoire de famille, exactement. C'est plus général, toute la famille. C'était très agréable. Voilà, ça sortira au printemps, j'imagine.
Il y aura Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier avec Mélanie Douté.
Oui, ça c'est donc
N'arrêtez
Nicolas.
Pas.
Là, c'est sur.
Ça sera en octobre prochain.
Hein. Ouais, ça c'est en octobre prochain. Ça c'était magnifique puisque je vois un personnage qui emmène des oies migratrices pour leur prendre en ULM. Il se fait suivre en ULM les oies. Pour leur donner un autre chemin gratis pour qu'elles ne se fassent pas tirer par les chasseurs.
Là, c'est quoi? C'est l'histoire d'un père et son fils?
Ouais, c'est ça. Son père et son fils et son ex-femme, donc, qui est Mélanie Douté. On a tourné en Norvège. Enfin, c'est un film d'aventure. On a tourné même en direct parce qu'on avait les oies qui naissaient. Donc, on devait tourner au moment où on avait l'œuf dans la main. Enfin, l'œuf. Et puis, l'assistant disait, ah, ça y est, ça va naître. Il va naître, il va naître. Vite la caméra. Je prenais l'œuf dans la main et t'as l'oisillon qui casse la coquille comme ça. Et t'as un oiseau qui naît comme ça, on l'a mangé direct. Allez, hop. Voilà, de bons souvenirs.
Et là, on est dans quelle position quand on redevient que comédien et qu'on n'a pas à se soucier justement si la caméra filme au bon moment,
agréable.
Au bon endroit, on se laisse aller?
Ah, on se laisse aller. Et puis moi, des films comme Nicolas Vanier, c'est des films d'aventure, moi je serais incapable de faire ça. Et donc on est très indulgent quand on redevient acteur parce que on sait ce que c'est de faire un film, les difficultés et tout. Donc on est très indulgent et on est avec le metteur en scène pour l'aider le mieux possible.
Vous dites que vous n'avez pas envie de faire ce genre de film.
Je saurais pas le faire.
Quel genre aimeriez-vous faire? Un policier, un western, une comédie musicale?
Non, ce que je fais là, parler de la vie, j'aime ça, parler des gens, les petites choses de la vie.
Les comédies humaines.
Les comédies humaines, ça me passionne.
José, on vous retrouvera le 30 janvier prochain, à cause des filles.
Oui, j'ai un petit sketch, un film à sketch, en fait, de Pascal Thomas, oui.
Avec Marie-Josée Croze et Audrey Fleurot. Il y a Nous finirons ensemble aussi, Guillaume Canet, son film avec...
La suite des petits mouchoirs.
La suite des petits mouchoirs. Avec Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lelouch. Et le 24 avril, vous serez dans Chamboultou d'Éric Lavenne. C'est bien d'aider Éric Lavenne, il en a besoin, parce que c'est pas non plus un formidable réalisateur. Avec Audrey Lamy, Michael Youn, c'est quoi?
C'est un film, c'est tiré d'une histoire vraie et inspiré d'une histoire vraie. Et justement, je joue un type qui a un accident. Enfin, c'est l'histoire d'une femme qui a écrit un livre pour raconter ce qui est arrivé à son mari qui a eu un accident de moto et qui est devenu aveugle. Donc voilà.
Voilà.
C'est pour ça que je vous le dis.
C'est ouvert.
Et qui a de l'anosognosis, c'est-à-dire qu'il est.
On connaît pas.
Il n'a pas de filtre, c'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il pense et il a gardé beaucoup de son humour. Voilà. Donc voilà, c'est une comédie.
Oui, enfin, il y a à la fois un drame humain et on rit de ces situations que l'on ne souhaite à personne.
Non,
c'est ça. Voilà. D'accord. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé déjà pour la carrière de. Oui, de Jean-Paul Rouve. Quand je pense que Nagui avait oublié que c'était vous, Julie Lescaut. Quel honte. Désolé pour Benoît Rouvel qui m'a appelé à la pause pour me dire qu'il refusait totalement d'être associé à la carrière médiocre de Jean-Paul Jouve. Ok, Benoît, je comprends. Le message est passé, ne t'inquiète pas. Désolé pour... Oui, pour vous, Nagui, dans la qualité d'intervieweur, a été quelque peu remise en cause, tout bonnement salopée, par
choquant.
Jean-Dominique Besnéa.
Ah, oui.
Mais en même temps...
Homme, femme, entre guillemets... voilà.
Ouais, en même temps, il n'avait pas tort.
Mais quelle bande de chien.
Ouais.
Mais quelle bande de chiens. Mais pourquoi je t'aime bien?
Je sais pas, mais ça c'est un gros mensonge.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de bien normalement. Rendez-vous cet après-midi, allez au cinéma. C'est un temps en plus, allez au cinéma. Et puis vous vous sentirez beaucoup mieux en sortant de la salle. Vraiment, très bon film. Lola et ses frères, merci à tous les deux d'être venus. José Garcia, merci, Jean-Paul Rouvé, bravo pour ce film. Je redonne le casting. Hein. Ludivine Sagné, en plus de vous deux. Ludivine Sagné, Ramzi Bedia, Pauline Clément de la Comédie Française, Philippine Leroy-Beaulieu, Franck Bruno, Jacques Boudet, votre copain comédien de théâtre.
Hugues Boucher. Formidable.
Voilà. Et ton fils dans le film.
Gabriel Nakache.
Voilà. Et tout le casting, vous verrez, il n'y a pas de petit rôle où on se dit, voilà, ils ont pris quelqu'un comme ça qui passait par hasard. Le travail est extrêmement bien fait et la réalisation est très très belle. Il n'y a pas que les plans séquences et pas que la technique. Il y a la caméra qui caresse et qui met en valeur aussi les personnages et l'histoire.
Ludivine Sagné, elle est sublime.
Sacré boulot, Jean-Patrick. Bien joué.
On aura, et je le dis tout de suite, autant d'empathie et de compliments à faire sur le film de Jeanne Herry avec entre autres Élodie Bouchet. Elles seront nos invités demain, mais c'est à force de cinéma. Il peut y avoir plusieurs bons films à voir, heureusement.
Il y en a qui sont moins bien.
Et non, on en parlera. Et on en parlera demain. Tout de suite, et Carnet de campagne de Philippe Bertrand.
Bonjour. Oui, salut les amis. Salut. Bravo. Salut. Quelle belle émission. Bravo Jean-Paul Rouve.
Merci.
Et c'était qui l'autre invité?
Roselito.
Salut les amis.
Ciao, merci.